RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique « Mon Indonésie ». La rubrique suivante est le magazine culturel « L'Indonésie en couleur ». Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Devant 130 pays, l'Indonésie rappelle les droits des travailleurs migrants. Le gouvernement promet de fournir 5 trillions rupiah des fonds culturels. Le chef de la police indonésienne et la police australienne discutent des questions relatives à la criminalité transnationale. L'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN doit être fondée sur l'accord des États membres. La Banque d'Indonésie et le gouvernement décident que la charia deviendra un nouveau flux de l'économie indonésienne. Et enfin, le ministre de l'Industrie apprécie l'innovation technologie HWP. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a souligné l'importance de protéger les droits des migrants, en particulier des travailleurs migrants. Cette déclaration a été transmise lors du sommet des Nations Unies consacré à la ratification de l'accord mondial sur les migrations qui s'est tenu les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech, au Maroc. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans sa déclaration à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie avait transmis la déclaration nationale soulignant trois choses. Premièrement, la protection des droits de tous migrants, y compris les travailleurs migrants, sans avoir à considérer leur statut. Lors de la conférence, l'Indonésie est élue l'un des vice-présidents de la région d'Asie et du Pacifique. Un humaniste, Gunawan Muhammad, après sa rencontre avec le président Joko Widodo et une trentaine d'artistes culturels et des autres artistes du palais présidentiel à Jakarta, a déclaré que le gouvernement avait promis la dotation de 5 trillions rupiah en 5 ans pour soutenir les activités culturelles. Il a déclaré que les fonds seraient utilisés pour soutenir diverses activités culturelles, y compris des spectacles artistiques et culturels. Le gouvernement est en fait obligé de faire progresser la culture. La réunion des humanistes avec le président a eu lieu à la suite de la soumission du manuscrit de la stratégie culturelle par le Congrès de la culture indonésien le 9 décembre 2018 au président. Le chef de la police indonésienne, le général Tito Karnavian, a discuté de la prévention du crime transnational avec le commissaire de la police fédérale australienne, AFP, Andrew Colvin. Le chef de la police nationale a rencontré Andrew Colvin en marge du forum sur la police et le leadership dans la lutte contre le terrorisme à Victoria mardi. Cette réunion a confirmé l'engagement de resserrer l'accord entre la police nationale et la FP. À cette occasion, Dit-on également le temps de parler à Andrew de la réunion prévue pour la réunion des hauts fonctionnaires SOM en 2019 qui se tiendra en Indonésie. La cybercriminalité, le trafic d'êtres humains sont quelques-uns des problèmes communs qui seront discutés dans le SOM 2019. L'équipe de représentants permanents d'Indonésie auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, a visité le Timor oriental pour voir la préparation de ce pays à devenir le 11e membre. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère indonésien des Affaires étrangères, José Antonio Morato Tavares, a déclaré à la Voix d'Indonésie à Jakarta récemment que l'entrée du Timor oriental en tant que nouveau membre de l'ASEAN devait être basé sur le consensus de tous les pays membres. À cette fin, le gouvernement indonésien fait ses efforts pour que le Timor-Leste puisse devenir le membre de l'ASEAN en invitant ce pays à participer aux activités liées à l'ASEAN. L'adhésion du Timor-Leste doit être basée sur le consensus. Récemment, le représentant du comité permanent, Ade Patmo, et son équipe ont déjà visité ce pays pour constater que le Timor oriental était prêt à devenir membre de l'ASEAN. À l'avenir, nous engagerons également le Timor-Leste à plusieurs réunions non décisionnelles. Récemment, le Timor oriental a été invité à assister au Forum maritime élargi de l'ASEAN à Mani et ils étaient présents, ils ont commencé à observer. Nous espérons qu'ils le sauront et deviendront plus tard membres de l'ASEAN. Selon José Tavares, le désir du Timor-Leste de devenir membre de l'ASEAN est encore entravé par l'un de ses pays membres. En conséquence, il n'y a pas encore d'un accord de tous les membres. Il a déclaré que la décision du Timor-Leste de devenir un État membre de l'ASEAN était une décision politique prise par chaque chef d'État. La proposition d'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN est proposée depuis 2011, quand l'Indonésie est devenue présidente de l'ASEAN et l'Indonésie soutient toujours cette proposition. La Banque d'Indonésie, le gouvernement et les institutions connexes ont déclaré que la charia devenait un nouveau flux de l'économie indonésienne en développant une chaîne de production de produits halal et le développement du marché financier islamique. Cela a été déclaré par le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Wardio, à l'ouverture du Festival économique de la charia indonésienne 2018 à Surabaya, Java Est, mardi. Selon lui, la charia devait être le pilier de l'économie car l'Indonésie a une grande population musulmane. L'Indonésie ne doit pas seulement être le marché cible des produits halal en provenance d'autres pays, elle doit également être en mesure de devenir autonome pour devenir le principal exportateur mondial de produits halal. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, Airlangga Hartarto, a apprécié l'innovation dans l'industrie des boissons Real Cold Press Facility, intégrée à la technologie High Pressure Processing, la première en Indonésie et dans l'ASEAN. Parce qu'il n'y a actuellement que quelques pays en Asie, même le monde, qui adoptent la technologie de traitement à haute pression. Sur la base d'informations écrites reçues par Antara à Jakarta jeudi, PT Sewu Segar Primatama est une entreprise nationale qui produit du jus pressé à froid. La méthode de traitement à haute pression permet de maintenir la teneur en éléments nutritifs et de prolonger la durée de conservation du produit jusqu'à 6 fois sans conservateur. Le ministre Airlangga a déclaré que le secteur indonésien des aliments et des boissons avait un grand potentiel de croissance en raison de l'abondance des ressources naturelles et de la forte demande antérieure. Chers lecteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Nous continuons notre programme avec le commentaire et pour le titre « La signification essentielle de la commémoration du jour Nusantara ». Chaque 13 décembre, l'Indonésie commémore le jour de Nusantara, le jour de l'archipel. Cette commémoration vise à commémorer le service de l'ex-première ministre Juanda Kartawijaya, qui a déclaré courageusement le 13 décembre 1957 que la mer indonésienne était enclose dans la mer environnante entre et dans l'archipel indonésien de Vienne en état unitaire de la République d'Indonésie, NKRI. Le jour de Nusantara est officiellement fixé par Megawati Soekarnoputri, cinquième présidente de la République d'Indonésie, par le décret présidentiel numéro 126 en 2001. La génération actuelle doit être reconnaissante car sans la déclaration de Juanda, le territoire maritime indonésien ne couvre que la mer à 3000 du littoral qui entoure les îles d'Indonésie. Ainsi, parmi les îles indonésiennes, il existe une mer internationale libre qui sépare les îles les unes des autres, ce qui constitue une menace pour NKRI. En outre, sans la déclaration de Juanda, le potentiel de richesse marine de l'Indonésie ne représente qu'environ un tiers de son potentiel actuel. Le président du mouvement des agriculteurs et pêcheurs indonésiens, professeur Rohmin Dahuri, a déclaré que l'Indonésie avait un grand potentiel économique dans le secteur maritime. Si ces potentiels économiques du secteur maritime sont gérés de manière optimale, ce potentiel économique peut atteindre 1,2 trillion de dollars américains par an et on estime qu'il est en mesure d'absorber 40 millions de travailleurs. En accord avec le thème de la commémoration de la journée de l'archipel 2018, à savoir la réalisation de toute l'unité de l'archipel par la déclaration de Juanda, la commémoration de la journée de Nusantara est très importante d'unir le sentiment d'être des citoyens indonésiens compte tenu de la menace de désintégration nationale et le séparatisme sont toujours une menace pour NKRI. En outre, la commémoration de la journée de l'archipel est très importante pour rappeler à toutes les composantes de la nation indonésienne que la puissance maritime est une source de force de la nation indonésienne. La mer indonésienne non seulement unie, relie des îles aux îles, mais possède également une grande source de richesse. L'Indonésie doit encore travailler dur pour augmenter le potentiel économique du secteur maritime pour pouvoir devenir une source de bien-être pour la population. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 décembre. Nous commençons par le 13 décembre 1945, la tragédie sanglante de la ville de Tebing Tinggi. Le 13 décembre 1945, l'armée japonaise massacrait des civils à Tebing Tinggi. Le massacre par les Japonais a tué 2000 personnes. Jusqu'à présent, les habitants de Tebing Tinggi commémorent les jours du massacre. Le 13 décembre 1937, LKBN Antara a été créé. Perum LKBN Antara est une entreprise d'État à laquelle le gouvernement confie la tâche de couvrir et de diffuser des informations rapides, précises et importantes pour toutes les régions d'Indonésie et du niveau international. L'agence de presse Antara a été créée le 13 décembre 1937 par A.M. Sipahutar, M. Sumanang, Adam Malik et Pandu Kartawiguna lorsque l'esprit d'indépendance nationale était animé par des jeunes combattants. Le premier directeur à cette époque était M. Sumanang et Adam Malik en tant que rédacteur et directeur adjoint. Et Pandu Kartawiguna en tant qu'administrateur et aidé par les journalistes A.M. Sipahutar. En 1962, Antara est officiellement devenue l'agence nationale de presse placé directement sous le président de la République d'Indonésie. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein a été arrêté. Saddam Hussein était président de l'Irak du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. En tant que dirigeant irakien et président du parti de Ba'ath, il a adopté une politique de panarabisme laïque, de modernisation économique et de socialisme arabe. Saddam Hussein a été renversé lors de l'invasion irakienne de 2003, dirigée par les États-Unis et arrêtée par les forces américaines le 13 décembre 2003. Le 5 novembre 2006, le juge en chef, Raouf Rachid Abdelrahman, l'a condamné à mort pour crime contre l'humanité. Le 30 décembre 2006, Saddam a été exécuté à l'âge de 69 ans. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie dont le titre est l'Indonésie et la Grande-Bretagne renforcent leur coopération dans le secteur de l'environnement. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a tenu une réunion bilatérale avec deux représentants britanniques en marge de la 24e conférence des changements climatiques à Katowice, en Pologne. Les deux personnes sont le ministre des Affaires de l'Asie et du Pacifique au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, Mark Field, est le vice-ministre d'État au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Therese Coffey. La ministre Siti Nurbaya a déclaré aux médias, vendredi, heure locale, que cette réunion bilatérale a discuté de la coopération en cours entre le Royaume-Uni et l'Indonésie, ainsi que sur son engagement à renforcer la coopération dans le secteur de l'environnement et de la foresterie. Dans deux décennies, l'Indonésie et la Grande-Bretagne avaient établi une coopération systématique. La coopération avec le Royaume-Uni a été lancée depuis les années 1990. Siti Nurbaya a révélé diverses collaborations dont les résultats ont eu un impact significatif sur les objectifs nationaux et des améliorations fondamentales du système de gouvernance, en particulier dans le secteur forestier. L'un d'entre eux concerne le système de légalité du bois qui contribue également à réduire l'abattage illégal, la déforestation et à renforcer la gouvernance forestière, tel que le programme de l'unité de gestion forestière. Cette année, jusqu'en 2022, le Royaume-Uni a accordé une aide de 60 millions de livres sterling à l'Indonésie au titre de programmes bilatéraux, multilatéraux et mondiaux. La reconnaissance de la légalité du bois indonésien a augmenté le commerce du bois entre les deux pays. L'Angleterre est l'une des 10 premières destinations d'exportation des produits du bois indonésien. Cette année, l'Indonésie a publié 6892 documents illégaux à exporter vers le Royaume-Uni d'une valeur de 255,23 millions de dollars américains. La ministre Siti Nurbaya a déclaré à cette occasion que les ministres des deux pays étaient également convenus de réorganiser leur coopération, notamment en ce qui concerne le soutien à la coopération du Centre international des tourbières tropicales. La base de la coopération du Centre international des tourbières tropicales se trouve actuellement sur deux campus de recherche forestière à Bogor, tels que l'Agence de recherche, de développement et d'innovation du ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, ainsi qu'au Centre pour la recherche forestière internationale. Chers auditeurs, c'est tout mon Indonésie.
Le gouvernement indonésien a souligné l'importance de protéger les droits des migrants, en particulier des travailleurs migrants. Cette déclaration a été transmise lors du sommet des Nations Unies consacré à la ratification de l'accord mondial sur les migrations qui s'est tenu les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech, au Maroc. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans sa déclaration à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie avait transmis la déclaration nationale soulignant trois choses. Premièrement, la protection des droits de tous migrants, y compris les travailleurs migrants, sans avoir à considérer leur statut. Lors de la conférence, l'Indonésie est élu l'un des vice-présidents de la région d'Asie et du Pacifique. Un humaniste, Gunawan Muhammad, après sa rencontre avec le président Joko Widodo et une trentaine d'artistes culturels et des autres artistes du palais présidentiel à Jakarta, a déclaré que le gouvernement avait promis la dotation de 5 trillions de roupies en 5 ans pour soutenir les activités culturelles. Il a déclaré que les fonds seraient utilisés pour soutenir diverses activités culturelles, y compris des spectacles artistiques et culturels. Le gouvernement est en fait obligé de faire progresser la culture. La réunion des humanistes avec le président a eu lieu à la suite de la soumission du manuscrit de la stratégie culturelle par le Congrès de la culture indonésien le 9 décembre 2018 au président. Le chef de la police indonésienne, le général Tito Karnavian, a discuté de la prévention du crime transnational avec le commissaire de la police fédérale australienne, AFP, Andrew Colvin. Le chef de la police nationale a rencontré Andrew Colvin en marge du forum sur la police et le leadership dans la lutte contre le terrorisme à Victoria mardi. Cette réunion a confirmé l'engagement de resserrer l'accord entre la police nationale et l'AFP. À cette occasion, Tito a également eu le temps de parler à Andrew de la réunion prévue pour la réunion des hauts fonctionnaires SOM en 2019 qui se tiendra en Indonésie. La cybercriminalité, le trafic d'êtres humains sont quelques-uns des problèmes communs qui seront discutés dans le SOM 2019. L'équipe de représentants permanents d'Indonésie auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, a visité le Timor oriental pour voir la préparation de ce pays à devenir le 11e membre. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère indonésien des Affaires étrangères, José Antonio Morato Tavares, a déclaré à la Voix d'Indonésie à Jakarta récemment que l'entrée du Timor oriental en tant que nouveau membre de l'ASEAN devait être basée sur le consensus de tous les pays membres. À cette fin, le gouvernement indonésien fait ses efforts pour que le Timor-Leste puisse devenir le membre de l'ASEAN en invitant ce pays à participer aux activités liées à l'ASEAN. L'adhésion du Timor-Leste doit être basée sur le consensus. Récemment, le représentant du comité permanent, Ade Patmo, et son équipe ont déjà visité ce pays pour constater que le Timor oriental était prêt à devenir membre de l'ASEAN. À l'avenir, nous engagerons également le Timor-Leste à plusieurs réunions non décisionnelles. Récemment, le Timor oriental a été invité à assister au Forum maritime élargi de l'ASEAN à Mani et ils étaient présents. Ils ont commencé à observer. Nous espérons qu'ils le sauront et deviendront plus tard membres de l'ASEAN. Selon José Tavares, le désir du Timor-Leste de devenir membre de l'ASEAN est encore entravé par l'un de ses pays membres. En conséquence, il n'y a pas encore d'un accord de tous les membres. Il a déclaré que la décision de Timor-Leste de devenir un État membre de l'ASEAN était une décision politique prise par chaque chef d'État. La proposition d'adhésion de Timor-Oriental à l'ASEAN est proposée depuis 2011, quand l'Indonésie est devenue présidente de l'ASEAN, et l'Indonésie soutient toujours cette proposition. La Banque d'Indonésie, le gouvernement et les institutions connexes ont déclaré que la charia devenait un nouveau flux de l'économie indonésienne en développant une chaîne de production de produits halal et le développement du marché financier islamique. Cela a été déclaré par le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Wardjo, à l'ouverture du Festival économique de la charia indonésienne 2018 à Surabaya, Java Est, mardi. Selon lui, la charia devait être le pilier de l'économie car l'Indonésie a une grande population musulmane. L'Indonésie ne doit pas seulement être le marché cible des produits halal en provenance d'autres pays, elle doit également être en mesure de devenir autonome pour devenir le principal exportateur mondial de produits halal. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, Airlangga Hartarto, a apprécié l'innovation dans l'industrie des boissons Real Cold Press Facility, intégrée à la technologie High Pressure Processing, la première en Indonésie et dans l'ASEAN. Parce qu'il n'y a actuellement que quelques pays en Asie, même le monde, qui adopte la technologie de traitement à haute pression. Sur la base d'informations écrites reçues par Antara à Jakarta jeudi, PT Sewu Segar Primatama est une entreprise nationale qui produit du jus pressé à froid. La méthode de traitement à haute pression permet de maintenir la teneur en éléments nutritifs et de prolonger la durée de conservation du produit jusqu'à 6 fois sans conservateur. Le ministre Airlangga a déclaré que le secteur indonésien des aliments et des boissons avait un grand potentiel de croissance en raison de l'abondance des ressources naturelles et de la forte demande antérieure.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, voici le magazine culturel intitulé Cascade de Sri Gethuk à Yogyakarta, Java Central. La région de Gunung Kidul à Yogyakarta est célébrée pour ses collines calcaires stériles. Mais à Gunung Kidul, il y en avait 15 places charmantes, des grottes uniques et des cascades fascinantes. L'une d'entre elles est la cascade de Sri Gethuk, située au sous-district Playen, en régence de Gunung Kidul à Yogyakarta. Cette cascade se trouve sur les rives de la rivière Oyo. Pour en profiter, vous devez plonger la rivière en radeau. Tout au long du voyage, vous admirez des falaises calcaires de chaque côté et des arbres épais. En raison sèche, les eaux de la rivière seront très clairs, verdâtres et calmes. La cascade de Sri Gethuk a trois sources, à savoir les sources Ngandong, Dongpo et Ngumbul. Ces trois sources se rassemblent et coulent à travers des autres falaises pour former la cascade de Sri Gethuk. Cette cascade a une hauteur d'environ 25 mètres avec 3 jusqu'à 5 cascades, mais cela dépend de la saison. L'eau jamais cessée est tombée. Elle n'a pas fait un étang, mais a immédiatement rampé des roches calcaires bien ordonnées sur les rives de la rivière. Pour se rendre à la cascade de Srigatuk, les visiteurs peuvent prendre un véhicule en traversant la forêt Eucalyptus de Perhutani. Une fois que vous atteignez le lieu de pêche qui fait également aire de stationnement, les visiteurs doivent poursuivre la route pour se rendre à la cascade de Srigatuk. Il y a deux choix qui peuvent être passés. Le premier est en marchant dans le sentier. En parcourant le sentier à environ 450 mètres, vous pourrez voir l'étendue de rizières et des rangées de cocotiers. Pour se rendre à la cascade, le voyage continue en descendant jusqu'à 96 marches. Et alors que la deuxième option est assez extrême, parce que vous devez traverser le courant rapide de la rivière Oya avec un simple radeau constitué de la planche et de tonneaux usagés. Pendant environ 15 minutes de voyage, vous verrez les arbustes verts au milieu des falaises karstiques robustes à gauche et à droite de la rivière. Le son du radeau qui révèle la charte de l'eau est comme le rythme d'une chanson naturelle qui rassure l'âme. Pour entrer dans la cascade de Srigatuk, les visiteurs ne paient que 3000 rupiah par personne, tandis que louer un bateau, 5000 rupiah par personne, et pour la location de pneus, 2000 rupiah par personne. Cette cascade est gérée par la communauté du village de Lebran. Bien que l'endroit soit isolé, mais une fois que vous avez atteint la cascade de Srigatuk, et senti l'eau couler entre vos orteils, toute la fatigue que vous ressentez changera instantanément avec un confort extraordinaire. Le bon moment pour visiter la cascade de Srigatuk est la saison sèche et le matin, parce que pendant la saison sèche, la cascade paraîtra plus clair. Vous commencerez le voyage le matin en descendant la rivière ou en marchant accompagné du chant des oiseaux qui ajoutera à la beauté de votre voyage. Chers amis, c'était Magazine Culturel intitulé Cascade de Srigatuk à Yogyakarta, Java Central. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur. Présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur intitulé L'écrivain indonésien a remporté le prix Prince Claus 2018. La fière nouvelle est venue du monde de la littérature indonésienne. L'auteur Eka Kurniawan a remporté le 6 décembre aux Pays-Bas le prix Prince Claus 2018 pour la catégorie littéraire. Ce prix annuel est attribué aux individus, groupes ou organisations œuvrant dans le domaine de la culture, dont les travaux ont un impact positif sur le développement des communautés en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Eka Kurniawan a été choisie pour sa capacité à raconter des histoires imaginatives à travers la beauté de la prose ainsi que l'universalité de la matière. Deux autres personnes ont été officiellement invitées à présenter leur candidature pour les nominations au prix Prince Claus 2018. 85 d'entre elles ont ensuite été acceptées et présélectionnées par le bureau de prix Prince Claus. Les personnes sélectionnées sont ensuite invitées à recevoir des récompenses lors d'une cérémonie officielle au Palais Royal d'Amsterdam en présence de membres de la famille royale et d'invités du monde entier. Ce prix est également remis dans le pays de chaque récipiendaire, accompagné d'une cérémonie par l'ambassadeur des Pays-Bas. Outre Eka Kurniawan, plusieurs autres noms ont également reçu le prix Prince Claus 2018, y compris Adon Judith de l'Ouganda pour le théâtre, Marwa Al-Sabouni de la Syrie pour l'architecture et urbanisme, Kidla Tahimik des Philippines pour les arts visuels et films, et Omenelik Ato du Brésil dans la catégorie média ou journalisme. Cependant, le Market Photo Workshop de l'Afrique du Sud a remporté le prix Prince Claus 2018 pour la photographie. Et Dada Masilo, également de l'Afrique du Sud, a remporté le prix Next Generation 2018 pour le monde de la danse. Eka Kurniawan est née le 28 novembre 1975. Ses œuvres résistent aux actions politiques arbitraires, apporte des problèmes sociaux sous une forme familière à la communauté. L'écrivain qui a fait ses études à l'Université Gadjah Mada est également considéré comme capable de forger une compréhension historique de la société qui permet en définitive de créer la perception d'un pays meilleur. On pensait également qu'il avait réussi à élever la culture indonésienne en racontant des histoires mythologiques locales qui avaient peut-être commencé à être ignorées. L'écrivain de Cantik Isluka utilise le pouvoir de la littérature pour évoquer des sujets cruciaux, notamment à une époque où la liberté d'expression est réduite au silence. Eka a également été considéré comme ayant réussi à attirer l'attention du monde entier en transmettant une autre histoire indonésienne qui a eu un impact sur la sensibilisation et la compréhension sur l'Indonésie. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie. Voici le magazine de musique qui présente à la fois la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour cette édition, nous allons vous présenter la chanteuse de pop Titi DJ. Voici la première chanson intitulée Expressi, chanté par Titi DJ. Bonne écoute. Serviteur, c'était la chanson de Titi DJ intitulée Expressie. Titi DJ est né à Jakarta le 27 mai 1966. Le vrai nom est Titi Dwijayanti. Elle est aussi l'auteur-compositeur des chansons indonésiennes. Elle a commencé sa carrière comme une modèle de photo et depuis ce moment, elle était de plus en plus célèbre. En 1983, Titi Didier a participé au concours de chanteurs Bintang Radio et Télévisie et elle a reçu le troisième prix de meilleure apparence. En même année, Titi a commencé à jouer au cinéma drôlatique. Ce thème était plus célèbre à cette époque, puis elle a joué son premier film intitulé Gepeng Bayar Kontan. En 1984, Titi a lancé son premier album intitulé L'Imagination. Bon, chers auditeurs et auditeurs, avant de continuer, écoutons une chanson de Titi intitulée Les Étoiles. Bonne écoute.
Indahnya, katakanlah pada yang bersinar.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Titi intitulée Les Étoiles. Je vous rappelle que vous êtes avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, avec le programme Le Magazine Musical. En 1985, Titi a commencé à préparer son deuxième album intitulé Pertama Yang Bahagia, aidé par le compositeur Indra Lesmana. Après ça, le prochain album de Titi est soutenu par Indra Lesmana. Entre autres, l'album de l'expression en 1988 et Titi DJ 99 en 1999. Titi a également rejoint le groupe de musique Adarapta et Atik Sibi et a réussi à produire deux albums. En 1999, elle a lancé l'album intitulé Bahasa Kalbu, Gaz du Cœur, qui est très succès. Elle a remporté 5 prix dans 6 catégories qui ont été nominées dans l'événement Anugerah Musique Indonesia Award 1999. Titi a remporté le meilleur album catégorie générale, la catégorie pop, meilleure chanson catégorie générale, singer et best female pop. Serviteur, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Titi DJ intitulées Sang Dewi et Bahasa Kalbu. Bonne écoute et à demain. Terima kasih.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.